voulez y aller ou pas? Vous voulez? Vous êtes libre. Oui, bah, merci beaucoup Tuzu pour la prière et je voudrais également remercier les anciens de l'église Tississi de me faire confiance, malgré ce que je suis, comme il le dit, comme ils le sont aussi d'ailleurs, aujourd'hui. C'est un grand privilège et c'est une grande joie pour moi de pouvoir apporter la parole aujourd'hui, en espérant que ça ne va pas être trop long, parce que je crois que la dernière fois où j'ai fait une prédication, c'est, je sais pas, en 2003 ou quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un bon bout de temps. Et souvent, on me disait, ouais, fais un peu plus court plus tard, quoi. Donc, je sais pas si... Oh là 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 là, 27 minutes, c'est trop peu, ça. Hein, ouais, même Kim, il n'y arriverait pas, quoi. OK. Donc, on m'a demandé d'apporter la parole pour aujourd'hui. Et j'ai réfléchi par rapport à ce que je devais vous apporter, vous partager. Je me suis dit, mais de quoi est-ce que je vais parler? Parce qu'il y a des sujets, je dirais, de prédilection que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur depuis, je sais plus, des années depuis. Je me suis dit, est-ce que je vais parler de l'Église, par exemple, parce que j'aime vraiment l'Église. Et puis, du temps, je faisais l'école biblique. C'est l'une des matières que j'ai vraiment aimées, c'était l'ecclésiologie. L'ecclésiologie et l'histoire de l'Église. Alors, c'est quelque chose que j'avais à cœur. J'avais vraiment compris ce que c'était que l'Église. J'avais compris le fait que l'Évangile ne peut pas être annoncé, proclamé, sans qu'il y ait l'Église par la suite. Donc, j'avais tout ça vraiment dans mon cœur. Bien, je me suis dit aussi, est-ce que je vais me mettre à parler de justice sociale? En anglais, c'est mieux, c'est social justice. Oui, parce que vraiment, c'est un truc que j'ai à cœur également, la social justice. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours lié à l'Évangile. Et par contre, la justice sociale peut découler également de l'Évangile, parce que Dieu, il est la justice. Donc, il y avait tout ça dans ma tête et je me suis dit, mais comment? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas continuer dans la foulée, quoi, puisque comme Kim avait parlé du fait de ce que Dieu est, il avait fait une série pendant pratiquement, je crois, 2 ou 3 mois, là, sur ce que Dieu est, une série sur Dieu. Donc, je me suis dit, allez, quoi, on va continuer dans ce sens-là, on va continuer. Mais là, je ne vais pas vous parler de ce que Dieu est, mais peut-être de notre réponse à nous par rapport au fait que Dieu est ceci ou cela. C'est plus de notre côté, en tant qu'Église de Jésus-Christ, qui voudrait répondre, une réaction, quoi, par rapport à ce que Dieu est. Donc, j'ai trouvé 3 réponses peut-être qu'on pourrait avoir par rapport à ce que Dieu est. La première réponse, c'est « je m'en fous ». Voilà, la première réponse, quoi. Dieu est ceci, cela, mais je m'en fous. Voilà. Ça serait la première réponse qu'on pourrait donner. La deuxième réponse, ça serait « oui, je vais répondre, mais un peu avec prudence ». Et la troisième réponse, ça serait « oui, c'est l'adoration envers ce Dieu dont Kim nous a beaucoup parlé ces derniers temps ». Donc, voilà, quoi. J'ai parlé de ces 3 points. Et en fait, je n'ai pas parlé des 3 points. On va passer sur « je m'en fous ». Ce n'est pas intéressant, quoi. N'est-ce pas? On ne va pas parler de ça. On va parler de cette réponse qu'on pourrait avoir, qui est là avec prudence. On va répondre avec prudence. Et de 2, on va adorer le Seigneur parce que... Voilà. Parce que... Donc, on va d'abord, pour le premier point, c'est à propos de notre réponse qui pourrait être une réponse très prudente par rapport à ce que Dieu est. Je suis désolé aujourd'hui pour les gars qui sont allés à ce sommet international de la prédication textuelle la semaine dernière avec les 3M. C'est que je ne vais pas trop faire de prédication textuelle aujourd'hui. Ce serait plutôt des réflexions personnelles que je vais apporter par rapport à tout cela. Oui, Kim? Bon, prions d'abord. C'est ce qu'on nous a appris aussi. Ça fait longtemps, donc
Prions d'abord. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous allons passer ensemble ici à écouter ta parole. Je voudrais te prier, Seigneur, à ce que tu puisses toucher des cœurs aujourd'hui au travers de cette parole, Seigneur, et que nous puissions avancer dans notre chemin avec toi. Merci Dieu. Amen. Ces deux derniers mois ou trois derniers mois, Kim nous a parlé de ce que Dieu est. Et je pense que c'était vraiment quelque chose de génial, quoi. Quelque chose de très profond, quelque chose qui pourrait vraiment chambouler toute notre vie si nous nous mettons vraiment à le comprendre et si le Seigneur nous donne la grâce d'avoir vraiment la révélation de ce que Dieu est dans notre vie, dans le monde, ce qu'il est, lui. Qui m'a parlé du fait que Dieu n'a pas été créé? Il existe de toute éternité et pour l'éternité, et il est séparé de sa création. Il n'a pas été créé. Il a parlé également du fait que ce Dieu, le seul Dieu qui existe d'ailleurs, le Dieu du monde entier qui a créé le monde entier et tout l'univers, c'est un Dieu qui est en même temps un Dieu dépensier. C'est la vie, c'est la vie. C'est un Dieu dépensier, c'est-à-dire qu'il dépense sans compter. Il donne sans compter. Ce n'est pas un Dieu avare. Tu vois, il voudrait t'en donner, mais un tout petit peu seulement. Il donne tout. Au-delà de ce que nous pouvons espérer. C'est ce Dieu-là que nous servons. Un Dieu qui dépense sans compter. Et il a parlé également du fait que Dieu est un Dieu qui suscite la crainte. Parce que c'est un Dieu grand, un Dieu saint. Et surtout ses ennemis. Quand on parle de ses ennemis, on a en tête surtout l'ennemi, Satan, et tous ceux qui sont avec lui, tous les anges qui sont tombés avec lui, qui sont les ennemis de Dieu. Souvent, quand on prie ensemble, on dit « Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu es là avec nous contre nos adversaires. » Mais en fin de compte, nos adversaires, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits. C'est le diable. Ok ? Il suscite la crainte. Mais c'est un Dieu qui est plein de bonté également. Merciful. Et c'est un Dieu qui est, là, je crois que c'était plutôt tout ce qui nous a parlé de ça, un Dieu raisonnable. Plutôt un Dieu rationnel, je dirais. Un Dieu qui réfléchit. C'est pas un Dieu qui est comme ça, c'est pas ce qu'il fait. C'est un Dieu qui sait très bien tout ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'on peut être en sécurité avec un Dieu rationnel? On avait également parlé du fait que Dieu est heureux. Il a plein de bonheur. C'est un Dieu qui est content, quoi. Qui a tellement de bonheur qu'il nous les partage. Ce bonheur est cette joie. Un Dieu joyeux. Et c'est un Dieu qui est beau également. Ouh là là! Un Dieu beau. Et c'est un Dieu qui chante. Donc je ne sais plus qui est-ce qui avait parlé de ça ici. C'était toi aussi. C'est, voilà, beaucoup de versets qui parlent du fait que Dieu il chante. Et c'est un Dieu qui a compassion. C'est-à-dire un Dieu qui sait ce que nous vivons. Mais ça ne reste pas là. Il agit par rapport à tout ce que, toute la souffrance dans laquelle nous pouvons vivre. C'est un Dieu qui a compassion. Et c'est un Dieu qui est en colère, mais en colère contre l'injustice. Comme je l'avais dit au tout début, là, c'est un Dieu qui hait l'injustice dans ce monde. Et Dieu est également notre ami. Et c'est un Dieu jaloux. Comme un garçon serait jaloux si sa petite copine allait voir un autre mec. Ou un mari, ou, je dirais plus, on va un peu inverser là, ou une épouse, si son mari va voir ailleurs. Il est jaloux. Et c'est un Dieu puissant. Il est même le Tout-Puissant. Il a parlé de tout ça, ils ont parlé de tout ça, Kim et Toud. Et par rapport à tout ça, nous pouvons réagir. Et parfois, nous réagissons avec prudence. Oui, Dieu et tout ça, Mais on ne sait pas trop, parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde qui est jalonné d'incertitudes. Et c'est tout à fait normal qu'il y a des moments où des gens puissent agir, réagir et répondre, mais avec prudence par rapport à tout ce qui est dit à propos de Dieu. Parce que nous sommes dans ce monde-là et il y a beaucoup d'incertitudes dans ce monde. On parle de mondialisation, il y a les péchés qui sont beaucoup plus attrayants maintenant. Par exemple, là, Sodome et Gomorre est mondialisé aussi. Quand tu regardes dans les films qui sortent là maintenant, il est tout le temps question d'homosexualité. C'est incroyable. Hein, dans les séries, dans les films qui sortent, dans les publicités, c'est incroyable. Ils mettent toujours un petit truc, un petit clin d'œil. Parce que je ne sais pas pourquoi ils veulent qu'on devienne tous pédés ou lesbiennes. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais je comprends vraiment pas du tout. Et quand tu te mets à dire que tu es contre cela, ils peuvent te mettre en prison dans certains pays, comme les États-Unis, du moins dans certains États des États-Unis. C'est incroyable. Ils veulent absolument que tu acceptes cette culture qu'il y a. Il y a eu des histoires de pasteurs qui ne voulaient pas bénir un mariage homosexuel, donc direct en prison, le gars. De même pour des gens qui faisaient des pâtissiers qui font du gâteau. Ouais, bah ouais, vous êtes homosexuel. Non, on ne fait pas votre gâteau. Paf, direct. On te considère comme étant un. Bah, le mot qu'on utilise, c'est homophobe. On te considère comme étant un raciste, quoi. Ou un antisémite, ou. Je ne sais quoi. Homophobe. Voilà. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Donc il y a plein d'incertitudes. Et puis il y a des craintes aussi qui viennent souvent dans nos vies. On a peur. On a peur de tout. On a peur de la guerre. On a peur des attaques à main armée. En ce moment, on a peur de ça sur Tana. Hein. Des attaques à main armée. Hein. On va dans Bémara, il y a plein de dalles partout. À part ça, il y a les news, les nouvelles qui vont rapidement vers nous. On est complètement saturé d'informations par le biais d'Internet, de Facebook et tout ça. Moi, depuis le moment où j'arrêtais pas de voir qu'il y avait des accidents sur le chemin, sur la route de Majunga, je veux plus que mes enfants aillent en voiture. Tu vois, c'est l'impact que ça a sur nous. Tu vois, il y a la crainte, il y a tout ça. Et dans ce monde-là, il y a des incertitudes. Nous sommes dans un monde post-moderne où tout est relatif, où je peux croire en ce que je veux. Je veux croire aux arbres, donc je me mets à prier les arbres. Je veux croire en ceci ou cela, je le fais. Tu vois, on est dans ce monde-là, donc il y a tout ça autour de nous. Et puis, il y a les millénials, celle-là de maintenant. Cette génération nouvelle-là. Une génération, les millénials. Ouais, moi je crois en rien. Tu vois, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a plus rien là. Tu vois, du temps de monsieur là, ou du temps de Denis et moi-même d'ailleurs, on avait les cheveux longs en ce temps-là. Hein. On avait les cheveux longs. On avait encore des idéaux. On voulait croire à quelque chose, tu vois. On voulait changer la société. On avait les cheveux longs encore. Hein. Lui, c'était, ouais, avec la fumette un peu de temps en temps. Ouais. Lui, c'est dans les années 60-70. Moi, c'est plutôt dans les années 90. Je sais pas, moi, je lisais Marx et Lénine. Hein. Je dis, il y avait quand même des idéaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'avenir. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'amuser. Bah, amusons-nous. Voilà. Donc, on recherche le plaisir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc, il y a tout ça. Et donc, les points dont je voulais vous parler, c'est l'introduction, hein. Le point dont je voulais vous parler tout à l'heure, c'est on réagit parfois, on répond avec prudence. Le premier point, c'est l'idolâtrie. Romains, chapitre 1, verset 23 et verset 25. J'utilise la version Darby, j'aime bien. Ouais, je sais pas si ça sort ou pas, mais je vais me mettre à lire. Hein. Il y a d'abord l'idolâtrie qu'il y a dans ce monde. Romains, chapitre 1, verset 23 et verset 25. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. Oui, c'est tout à fait ça. L'idolâtrie, c'est cela. L'idolâtrie, c'est quand nous nous mettons à donner gloire à ce que Dieu a créé plutôt qu'à Dieu lui-même. C'est qu'on se met à adorer plus la créature que lui-même, le créateur. En fait, c'est ça l'idolâtrie. Et le monde dans lequel nous nous trouvons, pas que le monde d'aujourd'hui, mais le monde depuis que Adam et Ève ont chuté, vivent, tous les hommes vivent dans cette idolâtrie-là. Oh, c'est tout petit, c'est mignon. Sans la rédemption de Jésus, tous les hommes sont idolâtres. C'est notre nature même que d'être idolâtre. Et nous avons besoin de la rédemption de Jésus pour que, voilà, se mette à savoir adorer le vrai Dieu, le Créateur plutôt que la créature. Et quand, souvent, quand on se dit, ouais, l'idolâtrie, c'est quoi? On pense aux femmes adiennes à Madagascar. On pense à des, des rites orientaux. On se met à penser à tout ce qui est New Age. On pense à plein de trucs de ce genre. Mais c'est beaucoup plus sournois. Hein. Ça peut être le plaisir. Et le sexe, par exemple. Ça peut être l'argent. Ça peut être le pouvoir. Ou la gloriole, la gloire. Ça peut être tout ça. C'est sournois. On ne s'en rend même pas compte. On commence à adorer l'argent. On ne se rend même pas compte. On commence à idolâtrer les plaisirs. Ça nous arrive parmi nous, dans ce monde. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce sont les péchés. Romains, verset 1, chapitre 26, chapitre 1, verset 26, 27 et 29 et 31. À 31, je vais lire, hein, parce que c'est tout petit là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes aussi, pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de fraudes, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, etc., etc. Là, Paul énumère des tas de péchés. Et c'est toujours à la suite des versets que nous avons lus tout à l'heure. 23 et 25, et ça continue et ça parle de péché. Mais en fait, c'est quoi le péché? Le péché, c'est notre séparation d'avec Dieu. Enfin, pas la nôtre, mais c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça le péché. Et tous ces péchés qui sont énumérés là, ce sont les conséquences de ce péché originel qui est notre séparation d'avec Dieu. Et souvent, ça nous arrive de pécher. Nous qui sommes, j'arrive toujours pas à trouver le mot, à partir de rédemption. Nous avons été rachetés par Jésus, nous avons été sauvés par Jésus, mais il nous arrive toujours de pécher. Et là, c'est toujours une sorte de réponse avec prudence par rapport à Dieu. C'est parce que nous avons péché et nous sommes sous la culpabilité. Nous nous sentons coupables. Et pour combattre cette culpabilité, nous pouvons tomber dans le légalisme. Vous voyez, il y a tout ça. Alors que nous qui sommes chrétiens, qui connaissons Jésus, la parole est claire là-dessus. Nous allons voir dans Romains chapitre 8. Je pense que vous n'êtes pas obligé de, de voir dans votre Bible, parce que ouais, c'est écrit derrière. Romains, chapitre 8, verset 1 et verset 16 et 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Là, la parole est claire. Nous qui sommes chrétiens, qui connaissons Jésus, nés de nouveau, si ça nous arrive de pécher, la parole est claire. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a que l'accusateur des frères qui nous accuse. Mais Jésus, lui, il nous a pardonnés, il nous a justifiés. Parce que le péché, ça peut être un frein à cette réponse par rapport à ce que Dieu est. On se dit, mais voilà quoi, j'ai péché, est-ce que je mérite cela? Mais la parole de Dieu est claire. Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Et Paul, il dit dans Romains 5, 20, par exemple, que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est grave ça, hein? Là où le péché abonde, c'est grave et c'est profond, hein? Là où c'est en abondance, imaginez un peu. Là où le péché abonde, là où le péché est en abondance, la grâce de Dieu surabonde. Toujours. C'est incroyable, hein? Bien sûr, Paul, il dit après, est-ce qu'on va se mettre à pécher pour bénéficier de cette grâce? Il dit non, pas du tout. On ne va pas pécher pour que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie. Non, du tout. Mais je voudrais bien que les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, l'Église de Jésus, comprennent que nous avons été pardonnés une bonne fois pour toutes. Et nous avons été sauvés une bonne fois pour toutes et par la grâce de Dieu. En fait, si ça t'arrive de pécher, que faire? Repens-toi. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Ça veut tout simplement dire tourne-toi vers Dieu de nouveau. C'est tout. Fais de lui tes délices. Il faut se délecter de Dieu. En fait, la raison pour laquelle nous péchons, parfois, c'est qu'il y a des moments où on oublie d'avoir Dieu pour délice. En fait, c'est tout. Mais si on a vraiment Dieu pour délice, tout le temps, on se tourne vers lui si jamais on tombe. C'est le deuxième point, c'est les péchés. Le troisième point, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire. Dieu est ceci, Dieu est cela, mais je sais pas, j'arrive pas à croire. Dans Marc, chapitre 4, versets 3 et 6, et 16 et 14 et 17. Là, donc, il s'agit d'une parabole de Jésus par rapport au semeur. Écoutez, voici un semeur sorti pour semer. Et il arriva qu'en semant, quelques grains tombèrent le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Oui, ça peut être une réponse aussi. Mais toujours avec prudence parce que on est dans l'incrédulité. Il y a la parole de Dieu qui est semée, mais ça ne pousse pas. Parce que c'est tombé sur un terrain rocailleux. Là, c'est Jésus qui parle de sa parabole et par la suite, il explique. Le semeur sème la parole et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole semée en eux. Et pareillement, ceux qui ont semé sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais ce sont que pour un temps. Puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Voilà, ça peut être l'incrédulité, le manque de foi. Mais de toute façon, si on manque de foi, où est-ce qu'on va aller demander la foi? À lui. Si tu manques de foi, Si tu as de l'incrédulité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'approcher de Jésus, lui dire de te donner cette foi qui te manque. Et à part l'incrédulité, ça peut être également les soucis de tous les jours. Là, c'est quelque chose que nous vivons aussi, d'ailleurs. C'est une réponse également que nous pouvons avoir par rapport à ce que Dieu est. Nous répondons, mais il y a les soucis de la vie tous les jours. Il y a les soucis de la vie. Marc, chapitre 4, toujours, versets 7 et versets 18 et 19. Et d'autres tombèrent dans les épines, donc toujours la semence là, et les épines montèrent et les étouffèrent. Ils ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Et les soucis du siècle, et la tromperie des richesses, et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole, et elle est sans fruit. C'est vrai, c'est quelque chose que nous vivons pratiquement. Ça nous arrive très souvent d'ailleurs d'avoir des soucis dans cette vie. Soucis par rapport à la santé. Voilà, ces derniers temps-là, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à la santé de mon fils, là, parce que dans l'église, il n'y a pas longtemps, il y avait un couple et son mari qui ont perdu un enfant. Et puis, il n'y a pas longtemps encore, il y avait un gars qui était dans la même classe que mon fils, qui est mort de cancer et d'AVC. Et je sais pas, depuis hier d'ailleurs, il me dit, oh, j'ai mal là tout le temps, au niveau de son sein là. Il m'a montré, il y a un truc qui gonfle. Oh là là, dans ma tête. J'ai tout de suite repensé à Inde, le gars qui était dans la même classe que lui, qui vient de mourir il y a pas longtemps, même pas 2 semaines là je crois, par exemple. Oh là là, c'est un souci, tu vois, dans ma tête. Mais ça te ronge quelque part, hein. Vraiment, parce que tu dis, ouais, c'est possible. En plus, ce qui est grave dans l'histoire, c'est que Inde, il est dans une famille chrétienne. Ben, l'autre est dans notre église même. Tu comprends? Donc tu te dis, ouais, Seigneur, voilà quoi. Il y a des soucis de ce genre. Et puis il y a les soucis d'argent aussi. Ça nous arrive aussi, les soucis d'argent. Parce que j'arriverai à amener à manger pour les enfants. Pour d'autres, c'est des histoires de dettes, etc. C'est des soucis de la vie. Et ces soucis-là peuvent être des épines dans nos vies qui nous empêchent de vraiment suivre le Seigneur. De suivre le Seigneur, qui nous amènerait plutôt qui nous empêcherait plutôt à vraiment nous épanouir dans le Seigneur, dans notre chemin avec le Seigneur. Mais bon, il a une solution de toute façon, hein. C'est Marc chapitre 4, versets 8 et 20. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'un 30, l'un 60, l'un 100. Et il explique, et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit. Oui, c'est possible. C'est possible pour nous que d'écouter la parole et de recevoir. Et cela pourrait porter du fruit. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Tout à l'heure, j'avais parlé donc d'une réponse avec prudence. Ça peut être l'idolâtrie, ça peut être les péchés, ça peut être l'incrédulité, ça peut être les soucis. Il y a également le marasme, la léthargie, le sommeil. Mais ça peut arriver aussi. Dans Apocalypse 2 et 3, chapitre 2 et 3, on ne va pas lire là, il est question des 7 églises de l'Apocalypse. Il y a l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. Il y a l'église de Smyrne qui fait face à la tribulation et la pauvreté en Dieu alors qu'elle est riche. Elle est pauvre en Dieu alors qu'elle est riche. Il y a Pergame qui est une église qui vit dans l'idolâtrie, dans le péché, dans les fausses doctrines. Il y a Thyatire où Jézabel règne. Il y a Sardes qui a le nom de vivre, mais qui est pourtant mort. C'est ce que la Bible dit. Elle dort, l'église de Sardes. Il y a Philadelphie, par contre, qui a tenu ferme. Et souvent, nous avons des missions chrétiennes qui s'appellent Philadelphie. On aime bien avoir ça, une église qui s'appelle l'église Philadelphie. Tu vois ? C'est pratiquement la seule église qui tient ferme. Mais il y a l'église de Laodicée. Et là, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup. C'est dans Apocalypse 3, versets 15 et 17, c'est « Je connais tes œuvres » à l'église de Laodicée, « que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » C'est grave ça, hein ? C'est Dieu qui vomit de sa bouche, quoi. Qui te vomit de sa bouche ? Mais en fait, là, souvent, ce qu'on aime dire, c'est soit on est froid, soit on est bouillant, mais c'est pas bien d'être tiède. Mais en fin de compte, c'est pas vrai, quoi. C'est pas bon d'être froid. C'est pas bien d'être tiède. Autant qu'on soit bouillant pour le Seigneur. N'est-ce pas ? Et c'est la réponse que nous devrions avoir par rapport à ce que Dieu est. Un autre point à part tout cela, et j'aimerais quand même en parler un peu ici, c'est par rapport à un certain intellectualisme évangélique. Non, mais c'est entre nous, hein. On va pas trop non plus, faut pas trop parler de ça ailleurs, hein. C'est souvent, tu vois, dans des milieux baptistes, évangéliques, conservateurs, mais c'est entre nous, hein. On en parle, voilà. Ou souvent dans ces milieux-là, on adore plus le livre que celui qui l'a écrit. Ouais, il dit le Père, le Fils et la Bible. Oui, et là, la parole de Dieu devient une sorte d'idole. N'est-ce pas ? Et je crois que c'est plus ou moins du pharisaïsme. On revient toujours à cette histoire. Tu vois, je comprends vraiment le fait que, voilà quoi, que ben, ce milieu-là, un milieu chrétien, ce sont des frères en Christ. Ils veulent vraiment aimer le Seigneur de tout leur cœur. Mais voilà, il y a un blocage quelque part. Et je comprends ce blocage-là. Parce que c'est un blocage en réaction par rapport aux faux prophètes qu'il y a dans ce monde. Il y a des tas de faux prophètes partout. C'est en réaction par rapport à des fausses doctrines. Ou c'est parce qu'il y a trop d'usurpateurs, quoi. Des gens qui veulent rajouter autre chose que la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Tu vois ? Donc en réaction par rapport à cela, il y a quand même une certaine crainte, une certaine prudence qu'ils ont par rapport à vraiment s'épanouir dans la vie avec le Seigneur. Alors que la parole est claire. Il est dit, par exemple, dans Jean 1, versets 1 à 5, « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, donc la parole, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Et quelle est cette parole-là ? C'est la personne de Jésus. Moi, ça m'est arrivé d'être à des conférences de ce genre où le gars, pendant 45 minutes, il fait un enseignement sur la parole de Dieu, mais où il ne parle jamais de Jésus. Je trouve ça étonnant, hein. Alors que justement, la parole, c'est qui ? C'est la parole vivante qui est Jésus lui-même. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 6, il est dit « Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, comme lue, connue et lue de tous les hommes, car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur, etc., etc. » Et au verset 6, « qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Il y a des moments où on oublie que on aime la parole de Dieu, mais on oublie que la lettre peut tuer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne vie, qui vivifie. Ouais, vous pouvez vous dire, ouais, ça c'est les évangéliques conservateurs, ça. Mais il y a pire encore. C'est l'autre point, c'est, après l'intellectualisme évangélique, c'est cette excitation pentecôtiste charismatique qu'il y a aussi. Ouais. On veut tellement vivre les manifestations de l'Esprit de Dieu qu'on se met à vivre dans des artifices. Tu vois, on voudrait que ce soit cyclique, quoi. Tu vois, c'est les sensations, on veut faire perdurer quelque chose qu'on a vécu un moment où l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment. On veut refaire ça tout le temps. Et donc, on oublie que la vie chrétienne est faite de forme. Souvent, chez les pentecôtistes, les charismatiques, c'est ça. C'est la forme qui prend le dessus. Et il y a un grand risque de s'éloigner de la parole de Dieu, justement. Je sais pas quoi, il y a des gars qui racontent des choses du genre « Venez, on va vous apprendre à la formule pour que Dieu vous écoute dans vos prières. » Par exemple, quoi. La formule pour que la prière soit efficace, par exemple, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, une formule pour qu'une prière soit efficace, quoi. Vous comprenez? Il y a ça aussi. Donc, il y a ça. Et puis, je vais continuer, hein, parce que je vais passer à l'autre point après. Hein. Là, ça va être beaucoup plus court. Hein. Je ne vais pas utiliser de verset pour qu'on passe plus vite. Le dernier point par rapport à notre réaction, notre réponse prudente par rapport à Dieu, c'est face à ces fausses doctrines-là, on a peur. Et on agit avec prudence. Par exemple, en ce qui me concerne personnellement, moi j'ai eu une haine mais incroyable par rapport à l'évangile de prospérité. Tu as eu une sorte d'évangile, une fausse évangile où on dit que voilà, quoi, si tu suis Christ, tu vas devenir riche, etc. Ouais, voilà. Tu n'as pas le droit de tomber malade parce que avec Christ, on n'est jamais malade et tout ça. Par rapport à l'évangile de prospérité, en fait, c'est un truc New Age, quoi. Pratiquement. Mais on ne va pas quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Et là, ça peut être encore une réaction fausse et trop prudente par rapport à ce que Dieu est. Parce que, par exemple, quand nous disons que Dieu est un Dieu qui bénit, un Dieu qui est dépensier, un Dieu qui donne ses bénédictions avec profusion, avec libéralité, avec générosité, ça peut nous arriver de mettre un frein par rapport à ça. Parce que, malheureusement, parce qu'il y a, justement, l'évangile de prospérité à côté, tu te dis, je ne voudrais pas tomber dans cette fausse évangile. Donc, quelque part, on peut devenir sécessionniste comme les conservateurs par rapport aux dons spirituels, que voilà, il n'y a plus de dons spirituels aujourd'hui, il n'y a plus de ministère aujourd'hui, ça a été du temps des apôtres, que maintenant nous avons la parole, il n'y a plus les dons spirituels et tout ça. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on appelle le sécessionnisme. Et souvent, on peut être sécessionniste également, mais par rapport à cela, par rapport au miracle, ou par rapport à la guérison, ou par rapport à la provision de Dieu. Alors que Dieu, il veut nous donner sa bénédiction. Dieu veut nous rendre prospères, quelque part, d'une certaine manière. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, je passe vite fait au deuxième point. Maintenant, ce que j'aimerais vous partager là, c'est une réponse, je dirais, positive. Une réponse vivante qu'on peut avoir par rapport à ce que Dieu est. Et là, je ne vais pas utiliser de verset parce que ça va en faire trop. Il y a le temps qui passe également. Il va y avoir des mots un peu bizarres qu'on retrouve dans la parole de Dieu et qui ont perdu pratiquement leur vrai sens, qui ont perdu leur saveur un peu parce qu'on les a souvent utilisés dans notre vie chrétienne. C'est usé quelque part et ils ont perdu leur vrai sens, ils ont perdu leur saveur, ils ont perdu leur puissance même. Il y a des mots qu'on utilise, du moins dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Voilà, on les a un peu oubliés, ces mots-là. Et souvent aussi, c'est à cause des films qu'on regarde. On regarde des films sur Jésus, par exemple. Et c'est ce qui nous marque dans la tête, alors que ce qui est dit dans l'Évangile, ça peut vraiment être autre chose que ce que nous voyons dans les films où c'est déjà assez dénaturé, je dirais. Premièrement, nous pouvons répondre à tout ce que Kim nous a partagé, à tout ce que Dieu est d'une autre manière. Nous pouvons répondre à Dieu de manière positive, vivante. Nous pouvons répondre à Dieu parce que nous comprenons d'autres choses. Par exemple, que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Christ. Serviteur, dans le Nouveau Testament, c'est clair. Le mot serviteur veut dire esclave. Doulos, esclave. Esclave de Christ. Souvent, le mot esclave a été dénaturé aussi. Parce que dès qu'on pense à esclave, c'est tous ces noirs-là qu'on a envoyés d'Afrique vers les Amériques, des esclaves, quoi. Ou qu'on a envoyé en Libye il n'y a pas longtemps, et tout ça. Donc des esclaves, des gens qui ne sont pas libres, etc., etc. Alors que la Bible est claire là-dessus. Nous sommes des esclaves de Christ, des esclaves de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Que nous existons pour Christ. Nous avons été cachetés, tamponnés pour Christ. Nous lui appartenons totalement. Nous sommes ses esclaves et il est notre maître. Quelle liberté, quelle joie que d'être l'esclave de ce Seigneur qui est notre maître et qui nous a libérés, qui nous a rachetés, mais à un prix très précieux par son sang. Ça, c'est un premier point. À partir du moment où on comprend que nous sommes des serviteurs de Jésus, du Créateur de ce monde, celui qui est venu pour nous sauver et celui qui va restaurer toutes choses. Mais quelle joie de pouvoir devenir son esclave, son serviteur. Et Paul le dit souvent, oui, moi, Paul, esclave de Christ, serviteur de Christ, etc., etc. Le deuxième point, c'est, on va utiliser des mots bizarres, je disais tout à l'heure, c'est que ces gens-là, ces chrétiens-là, c'était des chrétiens qui voulaient amener un changement dans la vie des gens de ce monde. C'est des révolutionnaires. C'était des témoins de Jésus, des témoins de la résurrection de Jésus, des témoins du fait que Jésus est vivant aujourd'hui. Et ce mot témoin dans la Bible, c'est martyr. Des gars qui sont prêts à mourir pour lui. Parce que de toute façon, ils sont morts pour lui, ils sont vivants en lui. Des témoins de Jésus-Christ, des martyrs de Jésus-Christ, ben, ça a été dénaturé aussi parce que il y a les musulmans, les martyrs, tu as les gars qui font les kamikazes et tout ça par-ci par-là. Mais c'est pas ça du tout. Nous sommes les martyrs de l'amour de Christ. Et puis, il y a d'autres trucs, c'est les témoins de Jéhovah et tout ça, oui. Mais bon, quand on pense à martyr souvent, c'est ça. C'est des trucs qui ont été complètement dénaturés. Alors que c'est une joie que d'être un témoin de Jésus-Christ, un martyr de Jésus-Christ. Troisième point, c'est que nous sommes des gens authentiques. Nous vivons une foi authentique. C'est pas quelque chose qu'on... c'est pas des rites qu'on fait. Tu vois, c'est pas des choses qu'on crée artificiellement. C'est pas... Et on doit faire gaffe par rapport à ça. Parce que l'être humain est religieux par nature. Il a tendance à chaque fois à vouloir faire des rituels et tout ça. Alors que notre foi, c'est une foi authentique. Et c'est non seulement une foi authentique, mais c'est une foi rationnelle. Tu vois, souvent les gens ils disent « Ouais, la foi, moi j'ai la foi. La foi, un truc, je sais pas. » Il y a des chrétiens même qui se disent « Ouais, on peut avoir la foi et puis c'est tout. » Oui, j'ai un copain là qui dit « Azamata Otaminou Poutinen, n'aie pas peur. Crois seulement. » Tu vois, souvent on dit ça. Mais notre foi, c'est une foi fondée sur quelque chose. Et c'est fondée sur une personne. C'est une foi qui est fondée sur le Dieu qui a créé le monde. Une foi qui est fondée sur le fait que l'être humain a chuté et a perdu cette relation qu'ils avaient, que l'être humain a perdu cette relation qu'il avait avec Dieu. C'est une foi qui est fondée sur le salut, l'évangile, Jésus qui est venu sur terre pour mourir sur la croix, pour que tu sois sauvé, qui est ressuscité des morts, pour que tu sois justifié, que tu sois sanctifié et que tu lui appartiennes. Notre foi est basée sur quelque chose qui existe. Et puis, il y a la restauration. Jésus va revenir pour restaurer toutes choses. Et il y a un mot qu'on utilise souvent en théologie, c'est l'apologétique. On peut toujours expliquer la foi par la raison également. Notre foi, ce n'est pas une foi qui n'est pas rationnelle, en l'air comme ça, dans les nuages, dans les brouillards. En fin de compte, tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour que nous soyons des êtres complètement irradiés par Dieu. Vous voyez, dans les radiations, irradiés par Dieu, comme les Tchernobyl, quoi. Voilà, il y a Tchernobyl qui a éclaté, une centrale nucléaire, et tout a été irradié par cette explosion. Que ce soit les fleurs, que ce soit les maisons, que ce soit les gens, que ce soit les animaux. Oui, nous, chrétiens, nous devrions être des êtres irradiés par Dieu, de Dieu. Nous devrions avoir une vie entière. On doit être entier. Servir Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est-à-dire notre être tout entier, le corps, l'âme, notre esprit, de tout notre cœur. Tu vois ? On doit vivre cela. Être des chrétiens entiers. Vous voyez, pour les Français, durant la Révolution française, ils adoraient faire les tortures. Tu vois, ils ont créé, par exemple, il y a un gars qui s'appelle Guillotine. Il a créé un truc, là. Tu mets la tête là-dedans, il y a une lame qui descend, qui te décapite. Tu vois, c'est la guillotine. Ils aimaient beaucoup ça. Et même quand tu vois la Marseillaise, leur hymne national, là, oh là là, c'est taché de sang, incroyable, dans la Marseillaise. Et ils avaient un moyen de torture qui était incroyable, c'était d'écarteler les gens. Ils mettaient deux chevaux, là, un cheval à droite, un cheval à gauche, et ils attachaient les pieds et les mains, la moitié donc vers un cheval et l'autre moitié sur un autre cheval. Ils chassaient les deux chevaux, que chacun aille de son côté, et les gens étaient écartelés complètement. Il y a des moments, nous pouvons vivre un peu la même chose dans notre vie chrétienne. Tu vois, c'est un peu ce que Tatérek, le dimanche dernier, voulait nous expliquer par rapport à avoir une vie holistique en Christ. Souvent, nous avons cette pensée qu'on appelle la dichotomie, où on sépare le spirituel du charnel. Là, je suis spirituel. Là. Ah, le truc que je fais là, c'est un truc charnel, quoi. Tu vois, c'est séparer le spirituel du charnel, séparer le sacré de ce qui est séculier. Tu vois, on aime bien parler de laïcité, tu vois. Là, c'est un truc laïque, mais là, c'est la religion. Tu vois, souvent, on vit ce genre de pensée, on vit ça dans notre vie chrétienne. Là, le dimanche, on va aller prier. Qu'est-ce que ça veut dire aller prier ? Tu ne pries pas tous les jours. Parce que les catholiques, ils ont un peu amené les gens à penser qu'il y avait un endroit particulier où on pouvait trouver Dieu, c'était dans les églises. Donc on allait là pour aller prier ce Dieu-là, parce que c'est là qu'il habitait. Tu vois, c'est un peu ça. Et c'est des trucs qui ne sortent pas un peu de notre culture. Il y a des moments, nous séparons un peu. Tu vois, je préfère aller voir, oui c'est ça, c'est bien aussi. Mais par exemple, aller voir du classique ou du jazz, c'est séculier, mais là, si tu veux aller voir Rizara Sunjaybe ou Dal Duiten, c'est mieux. Tu vois, il y a un peu de ça chez les chrétiens. Mais alors que tout ça, c'est bon, quoi. Pourquoi ne pas vivre ta vie entièrement pour Dieu ? C'est-à-dire que tu ailles voir du jazz, que tu ailles au travail, tu es là pour servir Dieu à tout moment. Et ça a été, c'est quelque chose qu'on a hérité un peu des Grecs aussi, le gnosticisme, où on donnait plus de supériorité à ce qui est spirituel, ce qui est connaissance, et tout ce qui était charnel, tu vois, ça c'est de la mouise, quoi. Tu vois, c'est la chair, quoi. Tu vois, alors que Dieu, il veut tout prendre chez nous. Tu vois, c'est les religions orientales. On donne vraiment l'importance à ce qui est spirituel. On doit se défaire de tout ce qui est de notre chair, tu vois, tout ce qui est de notre corps, tu vois, sortir de notre corps. Tu vois, il y a ça. Et ça a été une hérésie dans l'Église. Et cela nous amène également dans la sanctification. Voilà, je dois faire vite, tu vois. La sanctification. Et c'est la sanctification dans toute son essence, quoi, tu vois. La sanctification, c'est quoi ? C'est que nous avons été mis à part pour Dieu. Nous avons une vie qui lui est consacré totalement. Et ça rejoint toujours l'anti-dichotomie de tout à l'heure. En fait, on doit travailler pour cette sanctification, ça veut dire s'entraîner pour que on puisse vivre cette vie avec Dieu, avec passion, avec joie, avec plaisir, tu vois, trouver toute notre satisfaction en lui. Ok, j'ai fait deux petits points et j'arrête. Hein. Il y a un autre mot qu'on pourrait utiliser aussi, c'est on peut devenir des hédonistes chrétiens. L'hédonisme, chez les Grecs, c'est une philosophie où on recherche la joie, on recherche les plaisirs. Mais nous pouvons être des hédonistes chrétiens. C'est-à-dire que nous pouvons, et là c'est John Piper souvent qui en parle beaucoup, c'est trouver tout notre plaisir en Dieu. Trouver toute notre joie en Dieu. Trouver toute notre satisfaction en Dieu. Nous pouvons être satisfaits totalement de Dieu. Et c'est ce que nous devrions vivre. Et quand nous sommes satisfaits de Dieu, Dieu en est glorifié. Et pour terminer, c'est le mot impérialisme. Impérialisme, l'impérialisme chrétien, c'est-à-dire on devrait penser à conquérir, à aller parler de Jésus aux autres, aller parler de Jésus aux autres nations, aller vers les noirs, aller vers les jaunes, aller vers les blancs. Ils en ont bien besoin, les blancs, là, en ce moment. Hein. À ce qu'on leur parle de Jésus. Oui, c'est de rassembler les élus. C'est de participer à la moisson. C'est apporter cet évangile de beauté, de lumière, de grâce. La bonne nouvelle, quoi. Et là, il y a John Stott, un théologien anglican du XXe siècle, du siècle dernier. Et c'est un cas intéressant, hein. Je veux dire, c'est celui qui a pratiquement mis en place l'architecture de ce qu'on appelait le Congrès de Lausanne en 1974, d'où sont sortis des ministères très intéressants dans le monde contemporain chrétien, que sont les Ralph Winter, Billy Graham et tout ça. Il a dit ceci. La plus grande motivation des missionnaires, écoutez-moi bien, hein, la plus grande motivation des missionnaires n'est pas la grande commission ou la grande mission, the Great Commission, ni l'amour pour les pécheurs, mais le zèle, un zèle bouillonnant, brûlant, passionné pour la gloire de Jésus-Christ, le seul vrai impérialisme, l'impérialisme chrétien, tout cela pour la majesté impériale de Jésus-Christ et la gloire de son empire. C'est bien un anglais là qui parle, hein. Comprend très bien ce que c'est que l'Empire. Oui, on doit apporter cette bonne nouvelle partout où nous allons. Et vraiment, pour terminer, vraiment, vraiment, je vais lire un passage de John Piper qui dit « Ma passion est de voir des gens, des églises, des agences missionnaires, des œuvres sociales, on est un peu tous dans tout ça, hein, qui sont centrés sur Dieu, exalte Christ, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui sont satisfaits dans leur être de Dieu lui-même, la personne de Dieu, qui sont saturés de la parole de Dieu, de la Bible, qui sont mobilisés pour la mission, qui gagnent les âmes pour Christ et recherchent la justice. Tout cela dans la suprématie de Dieu, dans toutes choses, pour la joie des êtres humains en Jésus-Christ. » Voilà. C'est le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est qu'on puisse être bouillonnant, brûlant, avoir une passion réelle pour Christ en réponse à tout ce que Dieu est. Je pense que c'est notre réponse logique, normale, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face et quel que soit ce monde dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons être satisfaits complètement de Dieu. Nous pouvons aimer Dieu de tout notre être et aller parler de ce Dieu aux gens autour de nous. Amen.